France Culture.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mosna-Savoie.
Narcisse, hyacinthe, envie, arachnée, pygmalion, Europe, si vous regardez autour de vous ou dans votre cœur, dans le ciel ou dans l'actualité, tout était déjà là. Dès les premiers temps de l'humanité, dès le premier siècle de notre ère, dans cette œuvre monumentale, les Métamorphoses d'Ovide, soit 15 livres, 12 000 vers. Narcisse était alors le plus bel homme sur Terre, Arachnée, la meilleure des tisseuses, et Europe, une jeune femme enlevée par Jupiter jusqu'aux frontières de notre continent. Des êtres métamorphosés qui disent non pas que l'humain est partout, non, mais qu'il est un être fragile, incertain, changeant, en proie à l'orgueil, la violence, la passion, et pas seulement divine. 20 siècles plus tard, la leçon a-t-elle été digérée ? Comment les métamorphoses peuvent-elles encore nous transformer ?
Je veux dire les formes changées en nouveau corps. Dieu, vous qui faites les changements, inspirez mon projet et du début du monde jusqu'à mon temps, faites courir un poème sans fin. Avant la mer et les terres et le ciel qui couvre tout, le visage de la nature était un sur le globe entier. On le disait chaos, matière brute et confuse, rien qu'un poids inerte, des semences amoncelées, sans lien, discordantes. Aucun titan alors n'offrait sa lumière au monde, ni Phébé ne réparait en croissant ses cornes nouvelles, ni dans l'air tout autour la terre n'était suspendue, balancée sous son poids, ni vers les lointains bords des terres, Amphitrite ne tendait les bras. Quand il y avait terre, il y avait mer et il y avait air. Mais c'était terre instable, onde innavigable, air sans lumière. Rien ne gardait sa forme, une chose empêchait l'autre, car dans un même corps, le froid battait le chaud, l'humide le sec, le mou le dur, le sans-poids le poids. Un dieu et une bonne nature ont mis fin à cette lutte. Ils ont retranché du ciel les terres et des terres les eaux. D'un air compact ont séparé le ciel limpide. Ils ont déroulé les choses éparses, les ont tirées du tas aveugle et les ont attachées en des lieux où elles s'accordent en paix. La force du feu, impondérable, du ciel incliné, a éclaté. Elle s'est fait place au plus haut sommet. Proche du feu est l'air, en légèreté et lieu. Plus lourde qu'eux, la terre, traînant de grands éléments, pressée sous son propre poids. L'humeur qui lui coule autour habite les dernières régions, enserre le globe solide. Un dieu, quel qu'il soit, a disposé l'amas puis l'a coupé. Coupé, il lui a donné des membres. D'abord la terre, et pour qu'elle ne soit pas en ses parties inégales, il l'a arrondie en forme de grand globe. Après, il a versé les flots, a ordonné qu'ils gonflent sous les vents rapides, qu'ils entourent les rives d'une bande de terre. Il a ajouté des fontaines, d'immenses nappes d'eau, des étangs. Il a ceinturé de rives pentues les fleuves descendants. Divers selon les lieux, parfois ils sont absorbés par la terre. Ils parviennent à la mer parfois.
Bonjour Hélène Casanova-Robin.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes professeure de littérature à l'Université de la Sorbonne, vous êtes spécialiste de poésie latine et néo-latine, vous connaissez bien Ovide, auquel vous avez consacré plusieurs livres et travaux et même votre thèse, notamment au mythe d'Actéon dont nous allons parler à la fin de notre émission. On vient d'entendre les premières lignes des Métamorphoses. Avant de nous dire ce qu'il y a dans ce texte, avant de nous parler de pourquoi Ovide a écrit ce texte, pourquoi on aurait envie de se lancer dans une telle lecture aujourd'hui, en 2026, les Métamorphoses? Moi, je le sais, je l'ai lu, j'ai trouvé ça incroyable, mais vous, qu'est-ce que vous diriez? Pourquoi on doit lire les Métamorphoses aujourd'hui?
Parce que c'est un livre sur l'origine des choses, sur l'origine du monde et l'origine des corps. Et c'est un livre sur la transformation perpétuelle, sur l'éternel mouvement, l'instabilité, l'incertitude. C'est un livre qui donne à réfléchir sur toutes sortes de sujets. Alors, d'abord, qui nous réjouit par les sujets évoqués, par les mythes. Il y a une délectation une visée rhétorique de la poésie. Mais il y a aussi matière à réflexion sur la façon dont justement le monde a évolué, où il continue d'évoluer, sur ces questions d'identité. Qu'est-ce que l'identité d'un être qui peut être soumis d'un moment à l'autre sous l'effet de la puissance, de la colère d'un dieu, ou de la jalousie ou du désir d'une autre créature, qui peut être transformée.
Personne n'y échappe, hein, d'ailleurs. Héros, nymphes, dieux, déesses, rien n'est sûr dans le monde d'Ovide, tout est incertain.
Rien n'est sûr et l'identité varie, l'identité est labile, tout se dissout, tout se rénove aussi. Donc il y a cette fascination naît de cette construction permanente aussi qui peut surgir, qui peut dans un éblouissement esthétique aussi, parce que Ovide raconte ses mythes avec une représentation visuelle extrêmement appuyée.
C'est incroyable à lire.
Voilà, et c'est pour ça qu'il a inspiré aussi tant d'illustrations, tant d'artistes. Alors on dit qu'il s'est lui-même sans doute aussi inspiré de l'art qui se développait à Rome à cette époque pour la représentation des mythes, mais il en a inspiré bien d'autres au cours des siècles. On peut voir l'évolution de... C'est un répertoire que l'on retrouve sans cesse dans les décorations des palais, des villas et autres.
Mais il y a un côté quand même feuilleton aussi, un petit peu série, c'est-à-dire il y a 15 livres, chaque fin de livre est le début du deuxième livre. C'est comme, excusez-moi du coup de l'expression en anglais, un teasing, quoi.
Oui,
on est vraiment la suite au prochain épisode. En cela, il y a quand même un paradoxe, Hélène Casanova-Robin, c'est qu'en fait c'est un monde incertain qu'il nous décrit au vide, mais en même temps c'est un monde qui nous semble extrêmement familier. Je l'ai dit, le narcissisme, Europe, un Pygmalion, ce côté sériel, les images de violence, les représentations d'inégalité, de domination, les viols, la vengeance. C'est un monde qui nous semble aussi extrêmement familier, extrêmement, en fait, un peu figé. C'est-à-dire qu'il y a de l'incertitude, tout est voué au changement, mais en fait, ce monde-là, écrit au 1er siècle de notre ère, c'est encore le même.
Je pense que ce qui provoque ce que vous venez très bien de décrire, c'est le fait que Ovide dit lui-même dans ses premiers vers qu'il va partir des formes transformées. Donc il part du concret, des choses. Alors il va nous expliquer qu'au début il n'y avait rien, etc. Il m'a montré comment les formes naissent, mais il part de ces éléments concrets pour en venir ensuite à leur transformation. Et il met en avant le principe moteur finalement de toute transformation, qui est la passion, et la passion qui correspond au vivant, à l'humain, et qu'il prête aussi aux dieux bien sûr, mais toutes les puissances de la nature sont mues, sont animées, si elles ont cette puissance de transformation, création et destruction, c'est parce qu'elles sont animées par la passion. On retrouve le principe empédocléen chez Ovide, de Eros, Eris, de cette lutte initiale entre la haine, voilà, qui finalement synthétise un peu le principe passionnel, mais que Ovide ne présente pas sous une forme théorique, doctrinale, mais qu'il présente sous une forme qui nous est familière en effet, parce qu'elle prend appui sur le quotidien. Elle va nous expliquer d'où vient ce laurier qui est là dans notre jardin,
Eh bien, de Daphné.
Voilà, de Daphné.
Non, mais même ouais. les hyacinthes, la faim, l'envie, le sommeil, on comprend tout et en même temps, on est presque un peu frustré de se dire qu'en 20 siècles, c'est toujours les passions qui nous animent, l'homme semble bien faible face aux passions, c'est toujours ce qui l'empêche d'agir, il a bien peu de volonté, il a bien peu de liberté, et c'est un peu l'excuse ultime. J'étais en proie au désir, je t'ai violé, je n'ai pas pu faire autrement. C'est-à-dire qu'il y a aussi ça en fait qui aujourd'hui peut nous sembler à prendre avec des pincettes dans les métamorphoses.
Oui, bien sûr, d'autant plus que ça s'inscrit dans un contexte où Ovide s'adresse à un public cultivé, érudit, qui a lu Cicéron, qui a lu la philosophie grecque transmise à Rome, notamment par Cicéron à ce moment-là, mais pas seulement, qui est dans un cercle où d'autres courants philosophiques sont développés, et les théories des passions sont des théories qui ont été définies par les philosophes, qui sont familières à tout son lectorat. Et précisément, ces philosophes ont expliqué, alors que ce soit Cicéron, Lucrèce ou autres, comment on pouvait, qu'il y avait un moyen de vaincre ses passions, d'acquérir une distance, une maîtrise de soi, une forme de sagesse. Et Ovide, finalement, apporte un rejet de tout cela, montre qu'on peut se livrer à toute l'école philosophique, à toute la discipline, on peut s'astreindre à cette discipline. Néanmoins, on ne peut pas ôter ce qui est le cœur du vivant tant qu'on est vivant, tant qu'il y a animus et anima, ce qui est
donc
aussi
l'âme.
Alors animus, il y a aussi le cœur, le souffle qui est dans l'esprit, et le cœur et l'âme qui sont irrigués l'un par l'autre. On retrouve la conception aussi lucrétienne. Eh bien, c'est aussi ce qui le porte dans son écriture poétique, et c'est aussi ce qui porte la vie. Et dans ses écrits d'exil, ensuite, dans ses derniers poèmes, dans les Pontiques en particulier, c'est l'être du pont qu'il écrit sur le bord de la mer Noire, il expliquera qu'il est un homme brisé, il n'a jamais pu revenir à Rome suite au châtiment qu'il a frappé brutalement, et que tout ce qui lui reste, néanmoins, c'est encore une passion, mais c'est sa passion pour l'écriture, sa passion pour la poésie. Et on voit ce qui l'a animé, finalement, il y a une sorte de bilan à ce moment-là de son existence, et il montre que la passion qui lui reste et qui l'anime au fond depuis le début, et que dans sa vie, tout n'était qu'écriture ou création poétique.
Alors, est-ce que justement vous pouvez, Hélène Casanova-Robin, nous présenter Ovide? Je signale juste qu'il écrit les Métamorphoses, il a déjà 46 ans, il a déjà écrit, et il a effectivement, comme vous venez de le dire, fait le choix de l'écriture. Il n'a pas voulu être dans l'armée, il n'a pas voulu être dans le droit, il a voulu vraiment se consacrer à l'écriture. Pourquoi écrit-il alors les Métamorphoses? Qui était-il à ce moment? Que voulait-il faire? Surtout si l'ambiance était à Lucrèce, à Empédocle, mais que pour autant il ne voulait pas apporter de morale. Est-ce qu'il y avait quelque chose de cynique en lui, de presque même de pessimiste sur l'humain qu'il voulait transmettre à travers les Métamorphoses, de « on n'y peut rien, on est comme ça, la nature humaine est ainsi ».
Alors, Ovide écrit les Métamorphoses au début de notre ère. Il est déjà un poète fameux. Il est venu des Abruzzes, étudié à Rome. Il appartient à un milieu privilégié, une famille de l'ordre équestre. Il a une solide formation intellectuelle. Il est d'abord un juriste, comme vous l'avez rappelé, et il occupe des postes importants dans l'administration, parce qu'il se crée aussi tout un réseau social que l'on dirait aujourd'hui. Et finalement, assez jeune, il connaît avec son premier recueil, les Amours, il connaît un vif succès, et il renonce à toute carrière politique, administrative et autres pour se consacrer à la poésie. Et lorsqu'il écrit les Métamorphoses, il a déjà donc écrit les Amours, les Héroïdes,
l'art d'aimer
aussi, les remèdes à l'amour. Et il écrit au moment où il est au fait de sa carrière, en quelque sorte. Les Métamorphoses, c'est vrai que tranche avec son œuvre précédente, déjà par le maître utilisé. On n'est plus dans l'écriture élégiaque avec ce couple de deux vers qui est
le distique, c'est ça.
Le distique élégiaque, un hexamètre et un pentamètre, un plus court qui crée un effet de rupture que l'on a associé à la poésie amoureuse, mais pas seulement, puisqu'Ovide l'utilise jusqu'à la fin de sa vie dans ses autres poèmes, aussi bien dans les faces que dans sa poésie d'exil. C'est un maître qui exprime plutôt un maître poétique, une familiarité, une expression de l'intime, de la subjectivité. Et les Métamorphoses, il choisit de les écrire en vers, en hexamètre dactylique, qui est le vers de la grande poésie, de la poésie soit épique, soit la poésie savante, qui finalement, ces catégories-là...
Donc il change de registre, là, Ovide. Ovide
de registre,
indique voilà. avec ce choix de vers que là, il va proposer quelque chose de l'ordre du savoir et de l'épopée.
Exactement, un grand poème, une grande œuvre. Alors que l'on a cherché à classer, on n'y est jamais vraiment parvenu, parce qu'en effet, elle ne répond à aucun des critères que l'on a pu définir au regard de la poésie grecque alexandrine en particulier, où l'on trouve un certain nombre de théories de l'écriture poétique. Les Métamorphoses, finalement, sont un livre qui rassemble tous les styles, hein, et où l'écriture se forge au fur et à mesure de son sujet. Alors, on y trouve des éléments épiques, il y a la geste de Thésée, de Persée face aux monstres. Alors, ce sont des thèmes épiques, en effet, mais on y trouve aussi des passages beaucoup plus intimes, sur des représentations presque romanesques du couple de Philémon et Baucis. Par exemple, ou de Pyramétis B, on y trouve des grandes plaintes tragiques comme le grand monologue de Médée. On y
trouve, ou de Byblis, par ou exemple, de Byblis. Ou de Myrrha, qui sont Myrrha, des voilà. jeunes femmes qui sont en proie à des dilemmes moraux mais véritablement voilà. tragiques, à savoir aimer leur frère ou aimer leur père. Je dis pas l'une se demande, bah, voilà, c'est pas choisir entre son père et son frère, c'est vraiment l'une est amoureuse de son père, par exemple. Myrrha est amoureuse de son père, c'est la question de l'inceste. Et là, effectivement, on peut avoir 5 pages de monologue de Myrrha, mais absolument fabuleux. Vraiment, on est dans ce registre du tragique pur et simple.
Voilà. C'est une œuvre qui, en quelque sorte, alors il a voulu faire un livre sur l'origine. Oui. C'est à la fois l'origine du monde, l'origine des choses, comme nous disions tout à l'heure, mais c'est aussi peut-être l'origine d'une nouvelle forme d'écriture poétique qui rassemble, qui subsume tout ce qu'on a pu écrire.
Donc la métamorphose comme principe littéraire ici.
Comme principe littéraire, voilà, d'une écriture qui va elle-même se transformer tout au long du recueil. Et s'adapter à son sujet au fur et à mesure et se développer ainsi, se muer donc parfois aussi en discours qu'on peut appeler élégiaque parce qui nous rappelle ces discours amoureux que Ovide prête à ses personnages féminins dans les Héroïdes par exemple aussi. Et par ce biais-là, il explore aussi tous les codes, alors les codes poétiques, mais aussi tous les codes moraux. Vous l'avez dit, il est question de transgression, il est question d'inceste, il est question de violence, de viol.
Bah de tuer son enfant pour venger sa sœur, par exemple.
Voilà, on arrive à des degrés de monstruosité, parfois, qui sont absolument insoutenables.
Mais il y a une forme de jouissance. Je n'ai pas lu la version latine, je n'ai pas cette compétence-là. Vous, c'est votre cas, Hélène Casanova-Robin. Mais par exemple, je pense à un épisode comme La peste d'Égine. On sent un plaisir, mais presque, je ne sais pas comment le dire, un peu macabre pour les corps qui sont brûlés par la peste. Il y a presque un plaisir jouissif de se dire le lecteur va aimer cette horreur-là. Est-ce que ça se ressent dans la langue latine d'Ovide ?
Oui, absolument. Et d'autant plus que dans la langue latine, on perçoit peut-être aussi ce qu'a voulu faire Ovide, c'est-à-dire que ce qui est aussi le principe de toute création littéraire. Enfin, au moins jusqu'à pendant toute la période assez classique, on va dire, jusqu'au XXe siècle, qui est le principe de l'intertextualité, de la reprise. Il s'agit aussi, de même que Ovide va reprendre des sujets qui ont été traités par les poètes tragiques, par les poètes épiques et autres, à sa manière, là, quand il traite de la peste, le lecteur de son époque a en tête la fin du De Rerum Natura, du livre de la nature de Lucrèce, hein, sur la peste, à l'arrière-plan Thucydide en Grèce. Mmh. Enfin voilà, il y a tous ces antécédents littéraires qui sont aussi convoqués dans l'écriture poétique latine et que l'on retrouve par ce jeu allusif, référentiel, qui est aussi la marque d'Ovide, d'écrire des textes extrêmement denses, extrêmement allusifs et qui reprennent une matière, parce que finalement c'est son principe d'écriture, on reprend une matière matière qui a déjà été traitée et on la remodèle, on la façonne d'une manière nouvelle en se l'appropriant et en la présentant de façon toujours plus spectaculaire, émotionnelle.
Ah voilà, il pousse les curseurs, comme on pourrait dire, Ovid, c'est ça ?
Oui.
Je le dis de manière très 2026.
Alors, il pousse les curseurs.
C'est spectaculaire, les dilemmes sont vraiment impossibles, tout devient tragique, les paysages sont décrits d'une manière bouleversante.
Oui, et il met l'accent sur les confins, sur les frontières, en fait, que l'on avait fixées, que ce soit des cadres pour des cadres moraux, des cadres génériques, et lui dépasse, surpasse toujours tous ces cadres-là, c'est le principe du dépassement. On sort du cadre, ce qui a fait dire parfois qu'Ovid était aussi un poète baroque. Ce sont des éléments à la fois esthétiques et symboliques que l'on va retrouver privilégiés aussi par les poètes baroques quelques siècles plus tard.
Avant d'écouter un autre texte de ce premier livre, on a quand même donné à entendre à l'auditeur et à l'auditrice, enfin aux auditeurs, aux auditrices, les premières lignes du texte. On en a parlé, il y a cette idée quand même de l'incertitude, on a parlé de la métamorphose aussi comme principe littéraire. Qu'est-ce qui s'entend dans ce texte-là, qui pour le coup ne concerne pas une métamorphose, mais vraiment le début du monde? C'est un monde en métamorphose, mais ça n'est pas un être qui se métamorphose, ça n'est pas Daphné qui se métamorphose en laurier, comme on l'entendra tout à l'heure.
Alors oui, en effet, le début, c'est le récit d'une cosmogonie. Il nous dit qu'il va reprendre l'histoire du monde depuis son origine jusqu'à son époque. Et ce qui est frappant dans ce début, comme vous le dites, c'est qu'il n'y a pas de mythe. Et plus que cela, c'est très net dans l'écriture latine, il y a une sorte de degré zéro de l'écriture. Il n'y a pas de fioriture. Les termes sont choisis de façon à être le plus simple possible. Ce qu'il nous dit, c'est une écriture mimétique de son sujet. Il n'y a pas de forme, il n'y a pas d'art, rien n'existe. Tout est une masse.
Et ça, l'écriture d'Ovid le transmet.
Et l'écriture, voilà. Et il y a là tout un travail sur une écriture très basique, dirait-on aussi, ce que je voudrais appeler le degré zéro, une écriture très très dépouillée pour exprimer précisément ce monde qui est encore informe. Et pour introduire progressivement, à partir de cet amas informe que constitue le monde, pour introduire les principes de création qui seront les principes de concorde ou de discordia concorsa. Le monde va se former avec ces quatre éléments vont se séparer. On assiste à une lutte des quatre éléments et ils vont se séparer et ils vont opérer une sorte de construction à la sur deux principes, la connexion, le lien et la séparation.
Et ça va être tout le moteur, ou en tout cas, plutôt que le moteur, le mécanisme, la logique en fait des métamorphoses. Tout est une question de répulsion et d'attraction d'une certaine manière.
Exactement, et de combat. Combat, apaisement, alors avec des curseurs variés, parce qu'il y a en effet, par moment, on va trouver une ampleur très importante accordée à la notion de lutte, et parfois au contraire, d'apaisement. Voilà, ce sera une forme de tension variable. Mais nous avons là tous les principes des corps, des corps en construction. Et je dirais plus encore, on le verra avec le mythe d'Apollon et de Daphné, il y a aussi posé le fait que tout ce qui va être créé procède de ces quatre éléments premiers, de la terre, de l'eau, de l'air et du feu.
Donc là, avant de passer dans le domaine, parce que vous l'avez dit, Hélène Casanova-Robin, que de la passion comme moteur, il ne faut pas oublier en fait cette cosmogonie dans laquelle Ovid nous place. Le monde, c'est d'abord un monde d'éléments naturels, avec les quatre éléments, et avec en fait un principe qui est assez simple, qui est quand même Eros et Eris, donc la haine et l'amour.
Qui n'interviennent pas tout de suite, précisément. D'abord, il exprime cela en termes de lutte, de combat des éléments entre eux, et qui, finalement, vont nécessiter l'intervention d'un Deus et natura melior, d'un dieu d'une nature meilleure. Alors, on a beaucoup discuté tout au long des siècles hein, sur ce qu'il voulait dire là.
En fait, il ne veut pas trancher d'une certaine manière.
Il ne veut pas trancher, il nous propose une expression assez énigmatique qui finalement renvoie, parce que là aussi, il nous offre une synthèse de toutes les théories cosmogoniques philosophiques anciennes. Hein, les uns disaient qu'il y a Platon ou les stoïciens, chacun à sa manière, bien sûr, va développer l'idée d'un démiurge d'un dieu qui organise le monde. D'autres, Lucrèce et l'Épicure, à la suite des épicuriens, porte-voix des épicuriens, expliquent que c'est la nature et que tout se fait par conjonction de l'aléatoire, finalement. Conjonction
la rencontre des atomes.
Des atomes, mais il y a chez Lucrèce aussi ce principe de lutte. Alors, Empédocle avait parlé des quatre éléments principiels et précisément de leur organisation sous l'effet d'Eros et Rhys. Ovide laisse le champ ouvert. Tout ce qu'il fait, c'est reprendre tout cela à la base avec une formulation extrêmement sobre, comme on disait, très très dépouillée. Néanmoins, il place ces éléments, ces quatre éléments, comme étant la base de toute construction ultérieure. Donc ça nous permet de comprendre pourquoi ensuite un être va sortir d'une plante, va sortir de la terre, va sortir, pourquoi Python, le fameux serpent, sort de la terre humide. Voilà, il y a des créatures. Alors, il nous dira à propos de Python que la terre, puisque Python sort après le déluge, ce serpent monstrueux, et que la terre engendre, mais parfois elle engendre des créatures qu'elle n'a pas souhaitées aussi, parce qu'il n'y a pas finalement
d'intention,
d'où aussi le caractère très flou de ce dieu ou de la nature meilleure.
Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que Ovide n'est pas là pour dire le monde a été créé de cette manière, ou en tout cas pour faire une leçon de ce point de vue-là, ça l'intéresse pas vraiment.
Non.
Ce qu'il veut montrer, c'est voilà dans quel environnement nous, êtres humains, vivons, voilà ce qu'il y a autour de vous et voilà pourquoi vous agissez de telle ou telle manière. Voilà. J'ai l'impression que c'est une forme d'exposé incarné, non pas d'une morale, non pas d'une cosmogonie ou cosmologie, mais vraiment de comment on est quand on nous décrit dans un monde qui est produit de cette manière.
Oui, et comment on peut ensuite se créer à partir de ce principe. Alors, il pose aussi des principes physiques. Au début, les corps, donc finalement, s'organisent par une sorte de tempérance. Ça, c'est un mot important parce que on le trouve au sens propre. Toute la représentation du monde obéit à une physique. Alors, c'est un principe que l'on avait chez Lucrèce aussi. Donc, avec un équilibre de poids, un équilibre entre le léger et le lourd qui doivent s'équilibrer, le chaud et le froid, le sec et l'humide, en fait, toutes les qualités des éléments aussi qui ont été définies. Et ce sont finalement ces qualités-là aussi que l'on va retrouver dans les mythes. Phaéton va échouer lorsqu'il tentera de conduire le char de son père parce qu'il est trop léger, il ne fait pas le poids. Au fond, donc, on voit comment cette cosmogonie ainsi posée dans son degré zéro, donc si elle intègre bien sûr des références à toutes les cosmogonies philosophiques, mais elle reprend les choses à la base, je dirais, du point de vue de la physique, et ensuite elle pose tous les éléments que l'on va trouver illustrés, incarnés, comme vous l'avez dit, incarnés et représentés visuellement avec une puissance visuelle très, très importante par les mythes.
On va écouter un autre mythe, Hélène Casanova-Robin. Enfin, pas un autre mythe, le premier mythe, en fait, puisque là, on a entendu la création du monde.
Pas tout à fait le premier, mais disons, le premier amour.
Le premier amour.
Voilà.
Le premier amour de Phébus est Daphné du Péné. Ce n'est pas le hasard qui la lui a donné, mais la colère cruelle de Cupidon. Le dieu de Délos, tout fier, juste après que le serpent a été vaincu, voit Cupidon courber les deux côtés de l'arc et tendre la corde. « Que fais-tu, petit rigolo, avec cette arme de force ?» dit-il. « C'est un poids pour mes épaules à moi. Moi, je sais blesser une bête, je sais blesser un ennemi. Le gros python qui pressait de son ventre pestiféré des arpents de terre, je l'ai abattu de mes innombrables flèches. Toi, avec ta torche, contente-toi d'exciter je ne sais quels amours. ne cherche pas ma gloire. Le fils de Vénus, ton arc perce tout, Phébus, mais tu es percé du mien. Oui, tout animal recule devant un dieu. Oui, ta gloire est plus petite que la mienne. Il dit. Il broie l'air de ses ailes frappées et vif s'installe à la cime ombragée du Parnasse. De son carquois, il sort deux flèches aux différents emplois. L'une fait fuir, l'autre fait l'amour. Celle qui fait l'amour est dorée et brille sur sa pointe acérée. Celle qui fait fuir est épaisse, elle a du plomb sous le roseau. De la dernière, le dieu perce la nymphe du péné. De l'autre, il blesse les moelles d'Apollon en passant par l'os. Tout de suite, l'un aime, l'autre fuit le mot aimé. Dans les cachettes des forêts, dans les dépouilles des bêtes capturées, elle se plaît, égale de Phébé la non-mariée. Une bandelette serre ses cheveux en désordre. Beaucoup la désirent, elle tourne le dos au désir, ne supporte ni ne connaît les hommes, court dans les bois reculés.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mosna-Savoie.
Premier mythe d'amour, vous l'avez dit, Hélène Casanova-Robin, ce premier mythe d'amour, c'est donc Apollon qui, fier de lui, après avoir vaincu le Python, et institué d'ailleurs les Jeux Pythiques en hommage, en mémoire de son exploit, défie Cupidon et lui dit « Tu n'as pas le droit de tirer à l'arc comme moi, je dois le faire. » Alors Cupidon se venge et décoche deux flèches, on l'a entendu, l'une qui va le faire tomber fou d'amour pour Daphné et l'autre qui va faire que Daphné va fuir. Alors quelle est la suite du mythe? Parce que là, on en est vraiment au moment, on a entendu dans la lecture, le moment où les flèches sont décochées et vraiment il y a donc ce principe antagoniste, de force antagoniste que vous avez décrit, qu'on retrouve ici. Mais est-ce que l'attraction à un moment donné va avoir lieu?
Alors c'est un sujet, Ovide raconte Primus Amor, le premier amour de Phébus, mais on pourrait dire qu'il donne aussi l'étiologie du premier amour qui s'est produit dans l'univers, puisque dans tous les éléments qui précédaient, là nous arrivons vers 400 et quelques du champ
452, voilà, 480 précisément.
Métamorphose. Donc dans les 400 premiers vers, il n'y a pas eu d'histoire d'amour, hein, dont on avait parlé tout à l'heure d'un principe empédocléen, mais qui ne s'était pas encore exprimé de façon concrète d'une certaine manière. Là, Apollon est représenté dans un diptyque. D'une part, vous venez de le dire, il a vaincu Python, donc il a finalement accompli pleinement son rôle de dieu solaire, le soleil qui, dans les selon les théories anciennes, est l'astre qui régit le monde, c'est l'organisateur du monde qui donne la vie, etc.
Hein, on a une figure Apollon de Phébus, hein,
Apollon,
je le précise.
Voilà, Phébus, c'est le brillant, c'est le solaire, voilà. Il est appelé ainsi, et c'est tout à fait important qu'il soit appelé Phébus, précisément l'éclatant, le brillant, pour rappeler sa qualité solaire. Et alors, il a pu vaincre le Python, qui lui est un animal monstrueux, donc issu de l'humidité de la terre après le déluge. Hein. C'est le soleil qui a desséché le monstre et qu'il a vaincu pour redonner vie. Et le voilà, tout à coup, confronté à nouveau à une créature d'eau, parce que Daphné est une nymphe de l'eau, c'est la fille du fleuve, hein, du Péné, et il va avoir avec elle une relation d'opposition. On parlait de combat, de lutte, qui avait été posé comme prémisse des principes de création et de destruction dans les métamorphoses. On en a ici une sorte d'illustration figurée, en fait. Alors, déjà, l'un des dieux les plus puissants, celui qui régit la nature par sa qualité solaire, ici est mis en échec par Cupidon, par le désir, au fond. Hein. Donc, on voit comment la passion, l'une des passions, désir, prend le dessus. Et Cupidon est en colère aussi. Donc, c'est lui qui devient maître du jeu. Et s'il impose cette épreuve, en quelque sorte, à Apollon, en le rendant amoureux fou de Daphné, et en même temps par ce jeu donc d'équilibre qui est soit qui permet le rapprochement à la création, soit au contraire la séparation. Là, ce sera le cas d'une séparation parce que par définition, les deux flèches à sens opposé qui ont été décochées ne peuvent pas produire un rapprochement. Hein, donc, pour répondre à votre question. Et nous avons là un antagonisme qui ne peut pas être résolu, puisque c'est encore c'est le Cupidon qui a imposé cela et qui a imposé cette scission, ce qui reprend la thématique que l'on avait dans la poésie élégiaque d'Ovide aussi, et chez ses prédécesseurs d'élégiaque, de la séparation, le discidium, hein, on est séparé, on est coupé de de l'autre, de la personne aimée, hein, et c'est aussi ce principe physique de séparation qui a été posée à l'initial, dans le récit initial de création du monde.
Donc on a déjà eu le principe physique presque, la cosmogonie dans le premier texte. Ici, c'est vraiment la description presque en acte de ce principe, mais à travers les passions. C'est-à-dire que vraiment, la passion devient le moteur, en fait, de cette séparation ou de cette union, car parfois l'union a lieu. Mais vous l'avez dit aussi, Hélène Casanova-Robin, c'est quand même un premier mythe qui est quand même fondé sur le fait que les passions échouent. Les passions sont destructrices, les passions sont vécues avec violence et inégalité. Qu'est-ce que ça dit quand même de la conception presque anthropologique qu'a Ovide de nous, en fait? Enfin, j'avais dit cynique tout à l'heure, pessimiste. Est-ce que c'est une manière de l'excuser? Est-ce que c'est une manière d'amender toutes les théories de morale, d'éthique? Est-ce que c'est une manière aussi de baisser les bras et de dire la nature est ainsi faite?
Baisser les bras, non. Au contraire, c'est d'en tirer peut-être une théorie de la reconversion de cette passion, parce que cette passion, elle est toute négative qu'elle soit ici. Donc c'est un échec pour Apollon, c'est un drame pour Daphné qui fuit à en perdre haleine, jusqu'à ce que, en implorant son père, elle obtienne une métamorphose en laurier, cet arbre nouveau qui va prendre son nom. Et donc la passion peut être en quelque sorte sublimée, on va dire, hein, par la création. Alors par la création poétique, par la création ici, le produit de cette passion, c'est finalement cet arbre, le laurier, qui a une symbolique si importante. Mmh. Alors pour le culte d'Apollon, mais aussi pour célébrer les généraux vainqueurs à Rome, enfin qui nous renvoie aussi à une réalité historique, sociale, on va dire culturelle. C'est le laurier des poètes, bien sûr, avec une cérémonie qui sera remise à l'ordre
du jour. Mais là, on est dans une lecture. Soit on a été dans une lecture étiologique, c'est-à-dire d'où viennent les choses, soit on a été dans une lecture, là ici, symbolique, le laurier comme symbole de la victoire. Mais moi, je vais être très littérale. Cette idée de la passion qu'on a tous ressenti, peut-être, en termes de déchirure, de tristesse, d'élan de joie, de fluctuation, elle est aussi extrêmement représentative d'une manière dont on pense que la passion est toujours, c'est-à-dire toujours dans des excès. Or, on pourrait aussi représenter la passion comme un sentiment, comme un lien, pas forcément du côté de l'éris, donc de la haine, de la séparation, mais aussi comme du côté de l'union. Là, tout est provocation, domination, viol, vengeance. Tout est séparation, on se demande bien ce qui unit les hommes, les dieux et les nymphes entre eux et entre elles.
Il y a quelques cas d'heureuses unions dans les métamorphoses,
c'est vrai.
Hein, Vertum, Népomone à la fin, ou Philémon et Baucis, enfin quelques cas assez rares, il est vrai. Mais cette union se fait à la condition de trouver la tempérance, le bon équilibre, hein, entre la
discorde, mais il faut la tirer soi-même.
La concorde, voilà, il faut arriver à trouver le bon équilibre des choses, un bon équilibre des humeurs physiques, alors qui renvoie aussi, cela dit, quand il parle de l'équilibre des éléments, du chaud, du froid, ici, c'est le Apollon incarne aussi une puissance solaire de la chaleur, et on disait Daphné une puissance de l'eau, hein. Et donc il pour trouver l'équilibre, finalement, au fond, c'est ce qui en sort, c'est le laurier. Mais pour trouver cet équilibre-là, cela renvoie aussi aux théories hippocratiques, hein, qui rappelaient que les passions sont aussi le produit de déséquilibres. Trop d'humeurs noires vont déclencher la mélancolie, trop de etc. La colère. Nous avons cet équilibre. Ça renvoie à une conception très concrète du corps, du mental aussi, lié au corps, à tout cela qui est familière aux anciens.
Et donc un équilibre précaire à trouver, un juste milieu, une tempérance que ne trouve pas Phaéton, donc le fils d'Apollon, qui pour prouver que Apollon est bien son père, lui demande à conduire son char, et voilà ce que ça donne.
Phaéton, corps de jeune homme, monte sur le char léger, s'y installe, de ses mains touche les rênes légères, se réjouit et remercie son père qui regrette. Alors Pyrrhoïs, Éous et Aéton, les chevaux ailés du soleil, Phlégon le quatrième, de hennissements souffleurs de feu remplissent l'air et de leurs pieds cognent aux barrières. Thétis, qui ignore les destins de son petit-fils, les lance. À eux la plénitude du ciel immense. Ils prennent la route et de leurs pieds mus dans les airs coupent les nuages et soulevés d'ailes passent devant l'Eurus né aux mêmes régions qu'eux. Mais ce poids léger, les chevaux du soleil ne peuvent le sentir. Le joug manque de la lourdeur ordinaire et, comme glissent les navires courbes, faute de juste poids, et par la mer sont menés, mouvants, trop légers, le char fait dans l'air des sauts libres de charge. Il est secoué dans les hauteurs, pareil à un char vide. Quand ils comprennent, ils se ruent, quittent l'espace connu, les quatre chevaux, ils ne courent plus sur leur ligne. Phaéton est épouvanté. Où tirer les rênes confiées, il ne sait pas. Où est le chemin, s'il le sait, il ne peut rien diriger. Pour la première fois, les ours gelés chauffent sous les rayons. Elles essaient de se tremper aux eaux interdites en vain. Le serpent, posé tout près du pôle glacé, alors paresseux de froid et n'effrayant personne, s'échauffe, prend dans ses effervescences de nouvelles fureurs.
Alors le grand Jupiter, ayant pris à témoin les dieux et Apollon lui-même, que le monde entier allait périr s'il ne venait à son secours, monte précipitamment au plus haut de l'Olympe. Il saisit sa foudre et la lance avec force sur le présomptueux cocher.
Les chevaux, épouvantés, bondissent dans tous les sens. Ils brisent leurs rênes et se débarrassent du char fracassé. Phaéton est précipité la tête en bas. Ses cheveux enflammés tracent un sillon lumineux dans le ciel crépusculaire. Il tombe, loin de son pays natal, au sein du fleuve Éridan, dont les eaux bienveillantes éteignent son cadavre embrasé.
Phaéton manque de prudence. Ce mythe commence à la fin du premier livre et se poursuit au deuxième livre. On a ce fameux principe d'aguiche, moi je dirais de teasing, bien année 2020. Ovid nous lance là-dessus, mais quelle est presque la morale, Hélène Casanova-Robin, de ce mythe où Phaéton quand même a voulu en fait s'identifier, a voulu être reconnu dans sa filiation avec Apollon. Et finalement, le cours des choses lui rappelle son imprudence, que tout est incertain et qu'il va mourir. En fait, il sait qui il est, mais il meurt.
Oui, alors c'est vrai que la question principale, initiale, que pose Phaéton et qui finalement anime son désir d'aller voir son père, c'est celle de la certitude. Il a besoin de savoir si son père est vraiment son père. Ça, c'est un sujet qui est tout à fait récurrent dans les métamorphoses. On le voit dès le chant 1 à propos de l'Icaron aussi. Si l'Icaron, quand il tue quand à sa table sont ses hôtes, etc. C'est parce qu'il veut essayer de tuer Jupiter parce qu'il n'est pas sûr que ça soit un dieu, enfin qu'il soit un dieu. Et nous avons cette notion de certitude qui est récurrente tout au long du texte et qui renvoie à ce monde que nous avions décrit tout à l'heure comme étant un monde labile, aux frontières labiles, perpétuellement incertain. Alors, Phaéton, sa morale, c'est précisément son manque, alors de peut-être pas encore de prudence, mais de tempérance. Il n'arrive pas à équilibrer les choses.
Quelle différence vous faites entre la prudence et la tempérance ?
La prudence, c'est la faculté de prévoir, hein, la prudentia, de prévoyance, disons, de ce qui va se passer plus tard. Et là, on en est encore en amont. On est au moment où il n'a pas encore lui-même équilibré ses propres forces. Parce qu'il est trop jeune,
Parce qu'il ne se connaît pas.
Parce qu'il ne se connaît pas aussi. Parce qu'il manque d'éléments pour obtenir cette gravitas, cette gravité nécessaire. C'est intéressant parce qu'à Rome, la morale se dit aussi en termes de physique. Hein. On a entendu tout à l'heure comment pour Phaéton, il est question de sa légèreté sans cesse. Phaéton pêche par léwitas, par légèreté. Et alors qu'il lui faudrait, pour conduire ce char, la gravité nécessaire. La gravité, c'est à Rome la dignité que l'on doit acquérir et afficher quand on est un grand personnage, quand on est un prince, quand on est un sénateur, quand on est un personnage de pouvoir. On doit tout ça doit reposer sur la gravité. Hein, parce que c'est une qualité morale extrêmement importante. Et lui ne possède pas cela. Alors, on peut même y voir un autre fil que l'on peut déployer à ce moment-là, c'est le fil métapoétique aussi. On a parlé de léwitas, de légèreté à propos de la poésie élégiaque, poésie des amours, alors que la grande poésie, la poésie épique, se caractérise par la gravitas, par sa gravité, vous voyez. Il y a aussi ce champ-là. Mais je pense que pour Phaéton, alors c'est un morceau de bravoure exceptionnel dans les Métamorphoses d'Ovide, ce grand passage de l'embrasement du ciel lorsqu'il perd la maîtrise de ses chevaux.
Donc après le déluge, on a vraiment la terre qui s'embrase. Hein.
La terre, mais dans le ciel, nous avons une série de ce qu'on appelle des adunata, c'est-à-dire de tout ce qui serait impossible selon les lois de la nature se produit. Hein, on a vu comment les ours vont se baigner dans les pieds gelés, le serpent se retourne. Enfin, toutes les constellations qui sont précisément, qui ont été réglées. Nous avons eu déjà deux créations du monde. Hein, une première et puis une seconde après l'épisode de l'Icaon, où Jupiter avait infligé un déluge universel. Le monde a été déjà créé deux fois. Il va l'être une troisième fois après l'embrasement ici du ciel suite à la punition de Phaéton. Mais là, le monde entier en perd ses lois, en perd ses registres, tellement la dimension universelle, ce problème d'équilibre des forces, d'excès de légèreté entraîne un déséquilibre absolument universel. Hein.
On va écouter un dernier texte, Hélène Casanova-Robin. C'est un mythe sur lequel vous avez travaillé, c'est le mythe d'Actéon qui, lui, va véritablement se métamorphoser. Il ne s'agit pas d'une métamorphose à l'échelle planétaire, mais bien ici à l'échelle intime, individuelle.
Il y avait une vallée dense d'épicéas et de cyprès pointus. Son nom, Gargaphie. Lieu sacré de Diane aux jupes retroussées, et tout au fond du bois, il y avait une grotte d'aucun art travaillé. Elle imitait l'art par son génie, la nature. De pierres ponces vivantes et de tufs légers, elle avait fabriqué cette voûte naturelle. Une source coule à droite, transparente et de petite eau, troussée d'une large ouverture à la margelle de gazon. La déesse des forêts, fatiguée de la chasse, venait ici baigner de rosée son corps de vierge. Elle descend, remet à une des nymphes chargée des armes sa lance, son carquois et son arc détendu. Une autre reçoit sur les bras le manteau. Deux encore détachent les chaussures de ses pieds et la plus douée, Crocale, fille d'Isménos, noue les cheveux flottants sur le cou. Elle garde les siens libres. Elle recueille l'eau de source, Néphélée, Yalée, Ranis, Psekas et Fialé, et la verse dans d'amples vases. Pendant que sur la fille de la Titane perle ce nectar, le petit-fils de Cadmus, qui a suspendu son labeur, erre dans la forêt inconnue, d'un pas incertain. Il arrive au bois sacré, ses destins l'y portaient. À peine il entre dans la grotte où ruissellent les sources, que les nymphes, comme ça, toutes nues, quand elles voient un homme, frappent leur poitrine et de hurlements soudains remplissent la forêt. Elles se pressent autour de Diane, la cachent de leur corps. Mais la déesse est plus grande qu'elle, et de son coup les dépasse toutes. Cette couleur du soleil qui choque les nuages, les claque et les teint, cette couleur de l'aurore pourpre, c'est celle au visage de Diane qu'on a vue sans rien.
La déesse voudrait punir, mais elle n'a pas de flèche à sa portée. Alors elle jette de l'eau à la figure d'Actéon.
Maintenant, va te glorifier de m'avoir vue toute nue.
Aussitôt, une large ramure de serre s'élève sur la tête d'Actéon. Son cou s'allonge, ses oreilles s'aiguisent, ses jambes maigrissent, et tout son corps se couvre d'une fourrure tachetée.
De plus, les esprits du héros descendant de Mars sont saisis par la crainte. Il prend la fuite et s'étonne lui-même de la rapidité de sa course.
Quand une fontaine lui renvoya l'image de ses hautes cornes, il voulut s'écrier « malheureux ». Mais nulle parole ne se forma sur ses lèvres. Il ne put que bramer douloureusement, et des larmes coulèrent de ses gros yeux.
Nous sommes au deuxième livre des Métamorphoses. Nous finissons au troisième livre de ces Métamorphoses. On finit l'émission Hélène Casanova-Robin avec ce mythe sur lequel vous avez travaillé. C'est une métamorphose animale. Actéon, en fait, est transformé en cerf, mais c'est injuste. Il a surpris Diane, la déesse de la chasse, malgré lui. Cette métamorphose est terriblement injuste. Pourquoi, en fait, ce mythe est important?
Alors, parce que d'abord, Ovide en livre une représentation justement extrêmement pathétique, et parce qu'il se démarque de ses prédécesseurs qui présentaient dans les traces et les fragments que l'on peut avoir dans le monde grec, qui le présentaient comme coupable soit de rivalité à la chasse avec Diane, soit coupable de voyeurisme. Lui, ça n'est pas son cas. Le poète insiste bien, il est arrivé là par hasard.
Ah, c'est Ovide qui insiste là-dessus.
Et donc, il insiste sur l'innocence du héros. C'est le fruit d'une errance. Il cherche un coin où s'abriter à l'heure de midi, l'heure la plus chaude du jour. Il lui faut de l'ombre. Où s'abriter, où se reposer, où trouver un délassement. Il tombe sur Diane nue au bain, qui le punit de façon extrêmement cruelle. Elle le métamorphose en lui jetant de l'eau et le transforme en cerf, elle lui ôte la parole, comme on a entendu dans le dans le texte lu, et elle lui ôte aussi la possibilité d'être reconnue par ses compagnons. Donc il va éprouver une mort épouvantable, c'est qu'il sera déchiré par ses propres chiens, pris en chasse par ses compagnons de chasse, et ses propres chiens de chasse le dévoreront dans une curée terrible. Et il ne peut qu'exprimer sa peine à travers des larmes qui coulent, mais il a perdu la voix. Alors, le thème de la voix est évidemment très important pour un poète, hein, puisque c'est aussi la voix que craint de perdre au vide quand il est relégué sur les rives de la mer Noire. Quand
il y a d'ailleurs beaucoup de langues coupées, de langues trouées. Il y a aussi la nymphe Écho. Donc là, Ovide se retrouve aussi dans ce personnage-là.
Alors oui, et c'est à ce personnage-là qu'il fera référence dans ses poèmes d'exil, dans les Tristes, pour dire « je suis comme Actéon, je suis victime d'une injustice, on m'accuse d'un crimen, d'un délit Or, c'était, en latin, le mot est masculin, un error, une erreur, une errance. Donc, ça n'est pas, je n'ai pas commis de faute de mon plein gré, disons, volontairement. Et voilà, on n'a jamais su ce qu'était cette faute. Il associe Carmen, la poésie, et crimen, dans un jeu aussi de mots. Mais en réalité, on ne sait pas profondément. Tout ce que l'on peut supposer, c'est qu'au moment où le régime augustéen s'est considérablement durci, Ovid a dû faire partie de ses opposants. Mais il a été puni. Du jour au lendemain, on l'a envoyé en exil et il ne reviendra plus jamais à Rome. Il sera comme Actéon.
Merci beaucoup Hélène Casanova. Robin Devaux, on peut lire Diane et Actéon, éclat et reflet d'un mythe à la Renaissance et à l'âge baroque aux éditions Honoré Champion, ou sous votre direction Ovid, figure de l'hybride aux éditions Classique Garnier. Les métamorphoses d'Ovid, nous avons eu recours de notre côté à la traduction de Marie Connet aux éditions de L'Ogre. Je signale aussi l'édition de Jean-Pierre Néraudeau en folio classique. Mais il est 10h55 pardon, et c'est l'heure de retrouver le pourquoi du comment de Frédéric Worms.
Comment est-on trompé par la flatterie ? On critique souvent aujourd'hui, et on a raison, les pratiques qui nous induisent en erreur, qui nous trompent, et en particulier par l'usage vrai ou faux du discours. Autrement dit, on critique le mensonge. Le mensonge, c'est le fait de dire délibérément le faux alors qu'on connaît le vrai. Mettons que je sache qu'il pleut, mais pour te tromper, je te dis qu'il fait beau parce que j'ai envie de sortir, et donc je vais te manipuler par le mensonge. Le mensonge est aujourd'hui un danger profond dans nos sociétés, et la propagation de mensonges prend aujourd'hui une échelle énorme et a des effets sociaux et politiques contre lesquels on ne peut lutter que par le retour à la vérité. C'est ainsi que le premier sens de mot « se tromper » est d'abord lié à la vérité et à l'erreur. Se tromper, c'est la question de l'erreur. Mais la question de la tromperie délibérée, va au-delà de l'usage du mensonge. Bien sûr, le mensonge en est une arme majeure, mais pour tromper quelqu'un, on peut utiliser d'autres techniques que le mensonge. Prenons l'exemple de la flatterie. Comment fonctionne la flatterie, par exemple, dans la fable, qui est une sorte d'antidote à la flatterie, la fable de La Fontaine la plus célèbre, par exemple, le corbeau et le renard. Le renard qui flatte le corbeau pour qu'il ouvre la bouche et fasse tomber son fromage. Maître Corbeau tenait en son bec un fromage, et le renard vient lui parler, lui dit qu'il est le plus beau et qu'il est, voilà, et qu'il veut entendre son ramage, c'est-à-dire chanson, et le corbeau ouvre son bec et laisse tomber le fromage. Est-ce que le renard a simplement menti au corbeau ? Bien non, il a fait autre chose que simplement lui mentir. Bien sûr, quand il lui dit « vous êtes le phénix des hôtes de ces bois », il n'en croit rien. Il ment d'une certaine façon, mais ce n'est pas exactement un mensonge, car ce n'est pas juste une erreur de dire qu'il n'est pas le phénix des hôtes de ces bois. En réalité, la flatterie n'est pas seulement un mensonge. La flatterie est l'art de manipuler quelqu'un en utilisant ses passions pour lui faire atteindre un certain comportement, même à ses propres dépens. Même pour lui nuire. Ainsi, La Fontaine dit-il bien, le flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute, c'est-à-dire vit en profitant et en nuisant à ceux qu'il flatte, à celui ou à celle qu'il flatte. Ainsi, la flatterie n'est pas exactement un mensonge, c'est une tromperie. Oui, le concept de tromperie aujourd'hui, avec toutes ses résonances, doit être au cœur de notre réflexion morale, sociale et politique. On trompe les gens quand on flatte certaines de leurs passions au détriment non seulement de leur vérité, mais de leur intérêt, et pour atteindre un but qui, comme dans le cas du renard dans la fable, qui d'Ésope à La Fontaine est un modèle de moralité par la littérature, d'instruction par la littérature, comme dans la fable, oui, où le renard ne veut pas seulement nuire au corbeau, mais atteindre ses propres intérêts. Ainsi, la flatterie, et Platon l'avait bien désigné dans le Gorgias comme non seulement le contraire de la vérité, mais un danger plus grand que le mensonge, parce qu'il passe par notre plaisir. La flatterie, dit-il, c'est la flatterie aussi de la gourmandise. Nous sommes flattés par certains plaisirs qui peuvent se révéler dangereux pour nous. Ainsi, la flatterie, c'est l'usage de nos passions, l'usage de nos plaisirs, l'usage de notre vanité, l'usage de nos passions, parfois les plus positives, pour nous nuire. Oui, la vanité, par exemple, c'est ce sur quoi appuie la flatterie. Vous êtes le plus beau, mais vous serez roulé dans la farine.
Merci Frédéric et merci à toute l'équipe, Carla Michel, Anna Fulpin, Nassim El-Kabli, Corinne Amar et Luna Hajla, à la réalisation et à la lecture des textes. Bravo Colin Gruel, à la prise de son, Élise Le.